ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera... juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi.
Bonsoir, bonsoir. Radio Pleine Lune 93.8 MHz. On sent que l'été s'approche, c'est les vacances. On en a besoin plus des couacs sur la Lune. Ça va mal, ça va mal. Et oui, d'ailleurs, ce soir, c'est peut-être la dernière émission en direct avant l'été. Et oui, on prend, la Lune prend des vacances, presque en tout cas. Mais restez quand même à l'écoute. On vous concocte un petit programme joli, joli, joli. Alors, ce soir au programme, eh bien, tout de suite, les nouvelles assurées par Isabelle et Viviane. Et puis, les coups de cœur de Marjolaine. Beaucoup de rendez-vous pour les semaines à venir. Il va se passer des choses folles. Tout de suite. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, entre femmes, Radio Zone, nos nouvelles. Au Bangladesh, la situation devient de plus en plus critique pour l'écrivaine féministe Taslima Nasrin. Quelques 5000 élèves des écoles religieuses de Dhaka ont manifesté dimanche 19 juin pour exiger la mort de Taslima Nasrin. L'écrivaine, âgée de 32 ans, vit dans la clandestinité depuis que le gouvernement a ordonné le 4 juin son arrestation, après qu'un journal indien ait publié une interview dans laquelle elle semblait demander une modification du Coran. L'écrivaine a assuré qu'elle avait en réalité prôné un assouplissement de la charia, la loi coranique. Par ailleurs, quelques centaines d'étudiants de l'université de Dhaka ont également manifesté pour la première fois afin de réclamer l'interdiction des partis religieux et des tribunaux islamiques. Ils ont annoncé d'autres démonstrations alors qu'une grève générale est prévue pour le 30 juin à l'initiative des fondamentalistes musulmans. Taslima Nasrin, condamnée à mort, avait en novembre 93 déjà écrit une lettre où elle parlait de sa situation. Je vous lis cette lettre qui est extraordinaire et qui montre bien la situation à la fois de cette femme, des intellectuels, des femmes intellectuelles et plus généralement des femmes dans des pays comme le Bangladesh. Hier, lors d'un meeting à la mosquée nationale, ici dans la capitale du Bangladesh, une foule de 10 000 fondamentalistes musulmans exigèrent ma mort. Le Conseil des soldats de l'islam, c'est-à-dire le groupe qui a prononcé la fatwa, la sentence de mort, a été rejoint par d'autres groupes demandant que le gouvernement interdise mes livres et mette à mort les blasphémateurs comme moi. Mon livre le plus récent, La Honte, représentait une famille hindoue persécutée au Bangladesh après la destruction de la mosquée Ayodhya en Inde en décembre 92. En Inde, les fondamentalistes hindous ont tué des innocents musulmans. Au Pakistan et au Bangladesh, des fondamentalistes musulmans ont persécuté des hindous, brûlé leurs temples. Cet été, après que 50 000 exemplaires de mon roman aient été vendus, le gouvernement l'a interdit sous la pression des fondamentalistes, disant que ce livre, je cite, « crée des malentendus entre communautés ». Mais je ne me laisserai pas réduire au silence. Partout où je tourne mes regards, je vois des femmes maltraitées, leur oppression justifiée au nom de la religion. N'ai-je point la responsabilité morale d'élever une protestation? Il y a des hommes qui gardent les femmes enchaînées, voilées, analphabètes et à la cuisine. Il y a 60 millions de femmes dans mon pays et il y en a plus de 15% qui sachent lire et écrire. Comment le Bangladesh peut-il devenir un État moderne et trouver sa place dans le monde? Quand il est tiré en arrière par des attitudes réactionnaires envers la moitié de sa population. J'ai la conviction, si nos femmes doivent être libres, que la religion ne peut servir de base à la politique. Le Bangladesh doit devenir un État moderne, laïque. Les codes de la famille basés sur des principes islamiques doivent être remplacés par une seule et même loi qui assure aux femmes des droits égaux à ceux des hommes. Ce pays a des lois contre les tribunaux religieux et leurs fatwas, mais on n'en tient pas compte. Cette année, dans le village de Chatat, Kara, une jeune femme a été lapidée sur l'ordre d'un tribunal local parce qu'elle s'est remariée après son divorce. Dans un autre village, les Mollahs ont accusé une autre jeune femme de fornication et l'ont condamnée à être fouettée publiquement de 100 coups de balai. Elle est morte peu à peu. C'était un prétendu suicide. Il y a d'autres cas similaires. Des filles de familles pauvres dans des régions isolées, illégalement condamnées par des représentants illégitimes de la loi islamique. Pour avoir élevé ma voix contre ces crimes, j'ai moi aussi été condamnée à mort. Pourquoi le gouvernement ne poursuit-il pas les fanatiques qui prononcent ces fatwas ? Il y a bien des gens pour penser que c'est parce que l'administration est arrivée au pouvoir avec l'aide des fondamentalistes. Les autorités m'ont confisqué mon passeport. Notre premier ministre, une femme, Khaled Azia, a-t-elle peur de s'opposer aux fondamentalistes ? Est-ce qu'elle ne se rend pas compte qu'en les tolérant, elle leur permet de se renforcer, que le temps va venir où ils se retourneront contre elle ? Les moulas qui me tueront, tueront tout ce qui est progressiste au Bangladesh. Si on les laisse faire, il est de mon devoir de protéger mon beau pays contre eux. J'en appelle à tous ceux et toutes celles qui partagent mes valeurs pour m'aider à défendre mes droits. Ce faisant, ils aideront à sauver le Bangladesh. Une action a été lancée, entre autres par le réseau des femmes sous loi musulmane, qui vous propose d'envoyer des télégrammes de protestation. Elle vous demande d'agir tout de suite, d'envoyer des télégrammes exigeant le retrait de la plainte et que des mesures soient prises enfin d'assurer la sécurité de Taslima Nasrin. Appelez l'ambassade du Bangladesh, informez la presse locale de cette situation. Envoyez aussi des télégrammes. Je vous donne l'adresse. Premier ministre Khaled Azia, gouvernement du Bangladesh, Premier ministre... Secrétariat du Premier ministre, Dhaka, Bangladesh, ou alors le Minister of Home Affairs, Ministry of Home Affairs, Government of Bangladesh, Bangladesh Secrétariat, PS, Ramna, Dhaka, Bangladesh. Si vous voulez ces adresses un peu plus en détail, vous nous téléphonez au 50 40 51 41 023 depuis Genève. Entre-temps, nous avons appris que Taslima Nasrin a demandé l'asile aux États-Unis. Pour l'instant, elle n'a encore obtenu aucune réponse. En Australie, après la Suède et l'Allemagne, c'est le pays, troisième pays développé qui a mis au point une législation pour pouvoir juger les auteurs d'abus sexuels commis sur des enfants des pays pauvres. Cela, là, il y a toute une controverse. Il y a ceux qui décident qu'il faut que donc la justice australienne s'applique également à l'étranger pour dissuader les criminels. Et il y a des peines qui peuvent aller jusqu'à 17 ans d'emprisonnement pour les auteurs d'actes sexuels sur des mineurs, même si ça se passe à l'étranger. D'autres prétendent que ça va être trop difficile, entre autres que les victimes pourront difficilement venir témoigner. En fait, dans ce cas-là, la législation australienne prend la place de législation des pays où se passent ces crimes et qui, eux, bien sûr, ne font la plupart du temps rien. Des pays comme les Philippines, la Thaïlande ou le Cambodge sont des destinations très appréciées des touristes pédophiles, justement parce que les lois y sont très clémentes ou aisément contournables et qu'il est facile d'y trouver des enfants livrés à la prostitution. En adoptant dans cette législation, l'Australie fait en réalité le travail des pouvoirs publics de ces pays. Ce problème ne concerne pas que l'Australie. La Suède et l'Allemagne ont également adopté des lois permettant d'engager des poursuites contre leurs ressortissants accusés d'actes sexuels commis à l'étranger sur des enfants.
Iran.
Un trafic d'épouses chinoises vers le Japon. Depuis quelques années, un commerce fait fleur entre l'archipel et les pays voisins, notamment la Chine. Une traite des jaunes s'est développée à la faveur de deux phénomènes. D'un côté, l'absence de femmes nubiles dans les campagnes japonaises et de l'autre côté, la présence de ce géant économique dans une Asie en pleine croissance, mais où les poches de misère ne manquent pas. Ces déséquilibres économiques suscitent des désirs et des rêves. D'un côté, on voit des Japonais des zones rurales qui, faute de trouver l'âme sœur au Japon, se tournent vers l'étranger. De l'autre, des femmes d'Asie qui tentent de traverser la mer en quête d'un avenir meilleur, attirées par la prospérité japonaise. Pour répondre à ces aspirations, une solution pratique, mais assez fragile, est proposée à prix d'or par la centaine d'agences matrimoniales spécialisées exerçant dans l'archipel japonais. Le mariage mixte. Ironie du sort, on s'est vite aperçu que les jeunes chinoises émancipées venaient de Canton ou de Shanghai et refusaient de suivre leur mari dans la campagne. En désespoir de cause, certaines agences, après avoir prospecté dans différents pays d'Asie, se tournent vers la province de Heilongjiang, dans le nord-est de la Chine, là où les femmes sont encore simples et douces et surtout dociles. Le machisme japonais est indécrottable. En attendant, un réseau de trafic de femmes originaires de Shanghai a été démantelé.
Iran, l'université se féminise. En Iran, les femmes constituent aujourd'hui 42% des effectifs universitaires et occupent la moitié des postes d'enseignantes. De quoi faire voler en éclats de nombreux clichés. La société iranienne accorde bien, malgré elle, une place centrale aux femmes dans le redressement du pays. Elles constituent aujourd'hui 42% des effectifs universitaires, occupent 35% des chaires en médecine et la moitié des postes d'enseignants. Dans un environnement machiste, la femme iranienne doit fournir plus d'efforts pour faire reconnaître ses aptitudes. Plus son niveau d'études est élevé, plus il lui devient facile de s'imposer, souligne Nasrin Hakami, sociologue. Vêtue d'un manteau bleu, cette dernière a obtenu son doctorat à la Sorbonne et poursuit aujourd'hui ses recherches à l'Institut des sciences sociales de Téhéran. De son côté, la doctoresse Rezvan, surnommée Miss AIDS, car elle dirige le laboratoire des analyses au Centre national de contrôle du sang, ajoute « La femme est choisie pour son intelligence et non pour son apparence. Il faut tout de même adopter un profil type pour accéder à un poste à responsabilité, profil qui privilégie le look islamique. Exemple de réussite académique aussi et professionnelle, c'est celle de la doctoresse Parvin Mansouri, 38 ans, à la tête de l'hôpital Razi, spécialisé dans les maladies de la peau. Cette dermatologue donne également des cours à la faculté de médecine. La moitié des étudiantes sont des filles. Celle-ci occupe aussi les deux tiers des 38 places de résidents dans mon établissement. Le monde académique véhicule les interdits sociaux, culturels et politiques. Ainsi, une femme ne peut prétendre devenir urologue, tout comme un homme ne peut désormais accéder à la gynécologie. Plus complexe, la faculté de droit accueille peu de jeunes filles car l'islam interdit à la femme de devenir juge. Plus sensible que l'homme, elle pourrait, selon le Coran, trancher en fonction de ses sentiments et non pas de sa raison. Depuis peu, une loi votée par le Parlement autorise les femmes à assister les magistrats dans leurs tâches. Peu d'avocates, mais elles existent, bravent quotidiennement les tribunaux et les préjugés. Dans les classes, les filles sont assises d'un côté et les garçons de l'autre. Pas de mèche tombant sur le front ou de rouge à lèvres, une tenue vestimentaire stricte est de mise.
En Amérique, aux États-Unis, l'insémination artificielle est une pratique banale. Pour répondre aux souhaits des clientes, des banques de sperme se spécialisent et présélectionnent les donneurs, un véritable eugénisme déguisé, car rien ne vaut le sperme des gens intelligents. Recherchons sperme intelligent, imbécile, s'abstenir, tel est le texte de l'annonce publié dans les journaux de Harvard et du MIT. C'est une des principales banques de sperme du pays, la California Cryobank, qui fait cette publicité. Il y a belle lurette que les banques de sperme poursuivent de leur assiduité les donneurs talentueux, mais aucune ne prône l'élitisme éjaculatoire avec autant de conviction que la cryobank. Son fondateur, le docteur Charles Sims, affirme se procurer uniquement des spécimens de qualité supérieure, issus des éléments les plus brillants. Son objectif est en effet de proposer à chacune de ses clientes un donneur qu'elle serait fière de présenter à sa mère. Il faut donc passer un questionnaire assez serré. On vous demande premièrement si vous êtes d'origine juive et puis si vous avez quelle université vous avez suivi, les études, la profession également de vos parents et vos origines ethniques en remontant à vos arrière-grands-parents. Ensuite vient un questionnaire fourni de 25 pages et un immense questionnaire. On vous demande vos prouesses scolaires, universitaires et on vous fait écrire un petit essai sur les thèmes suivants. Aimez-vous les animaux? Quel est votre animal favori? Qu'est-ce que vous aimez comme musique? Est-ce que vous avez de l'ambition? Et on vous demande aussi des détails supplémentaires sur la famille. Est-ce que votre oncle perdait ses cheveux? Est-ce que votre tante avait des petits ou des gros œufs? Gros os. Ensuite, les clientes reçoivent un catalogue qui décrit succinctement les donneurs disponibles. Il faut bien sûr payer 33 $, ensuite encore 52 $, où elles peuvent parler avec la chargée des relations publiques. Pour un spécimètre indéterminé, il faut payer 165 $. Si vous avez des exigences précises, ça augmente jusqu'à 400 $. Et bien sûr, on vous demande, vous pouvez donc choisir, par exemple, un diplômé de Harvard qui aime les petits chiens, qui ressemble à Evan Dando et qui a une attitude très zen dans la vie. On reproche souvent à ces banques de sperme, et surtout à la Cryobank et d'autres banques de génie, de faire le commerce d'un sperme de race supérieure. Le directeur s'en défend, il dit que ce sont les clientes qui imposent leur choix. Personne ne veut d'un donneur qui est fait de la prison. Certes, ce n'est pas parce qu'un individu possède un diplôme de l'enseignement supérieur qu'il ne s'écartera jamais du droit chemin, mais le niveau d'éducation reflète malgré tout une certaine aptitude à raisonner et un certain degré d'intégrité. Rien ne dit cependant à la faculté de transmission génétique de tous ses caractères.
Toujours aux États-Unis, nouvelle révélation sur des cobayes humains. Le département américain de l'énergie lève le voile sur une série de 48 expériences nucléaires. Donc, le département d'énergie a donc révélé l'existence d'une nouvelle série de 48 expériences nucléaires effectuées à leur insu sur plusieurs centaines de personnes entre les années 50 et 80. Le gouvernement américain, d'autre part, fait état de 95 explosions jusqu'à présent secrètes de bombes nucléaires dans le désert du Nevada. Le secrétaire à l'énergie a révélé que des doses radioactives d'iode 131 avaient été injectées à des femmes enceintes qui devaient avorter pour des raisons thérapeutiques. Ces expériences visaient à déterminer l'effet sur le fœtus de l'iode 131. Ces tests ont principalement eu lieu dans les années 50 et 60, mais jusque dans les années 80, des personnes ont été exposées à divers isotopes dans des laboratoires militaires dans le cadre de tests sur des équipements de détection. Le département de l'énergie avait déjà procédé au début de l'année à une première série de révélations indiquant qu'il y aurait eu au moins 600 expériences impliquant plusieurs milliers de cobayes humains durant la guerre froide. Une autre expérience révélée lundi s'appelait Project Sunshine et a consisté à administrer à des patients cancéreux en phase terminale du strontium-85, substance radioactive, de façon à pouvoir analyser leur tissu après leur décès.
Selon un spécialiste français, les premiers signes d'une épidémie de cancer de la thyroïde sont observés chez les enfants de Tchernobyl. 8 ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, on observe, selon un spécialiste de médecine nucléaire, les premiers signes d'une épidémie de cancer de la thyroïde chez les enfants ayant été exposés aux émanations radioactives de la centrale. Plusieurs centaines de cas sont d'ores et déjà attendus. Tragique coïncidence, au moment où les pays les plus riches de la planète s'interrogent dans le cadre du G7 sur l'avenir du site de Tchernobyl, que le corps médical enregistre les symptômes débutants d'une épidémie de cancer frappant les enfants ayant été exposés. Il y a 8 ans, aux nuages radioactifs, les premiers signes sont là, ceux d'un drame que l'on tenait pour possible, mais que tous, surtout les responsables du complexe énergétique nucléaire, bien sûr, et les nucléocrates de tous les pays, souhaitaient ne jamais avoir à prendre en compte. Partout dans le monde, à Londres, à Berlin, à New York, en Suisse, les homosexuels sont descendus dans la rue pour fêter le Gay Pride. À Paris, c'est environ 10 000 homosexuels et lesbiennes qui sont venus proclamer à la face du monde et des passants ébahis leur fierté d'être homosexuels. Chevauchant leur étincelle lent d'estrier, les pilotes du Gay Moto Club, précédés de quelques voitures de police, ouvrent la marche. Gay Pride, c'est avant tout le souvenir de la révolte de Stonewall en 69, une descente de police dans un bar de homosexuels new-yorkais avait entraîné une série d'affrontements violents. Cette révolte est considérée comme l'acte fondateur du mouvement homosexuel, la naissance de sa volonté de reconnaissance. Mais bien sûr, aujourd'hui, à peine sortie du placard en quelque sorte, la communauté homosexuelle a dû engager une lutte contre la mort avec le sida. En Suisse également, des manifestations un peu partout, surtout à Zurich, où plus de 1000 personnes ont défilé samedi à Zurich, toujours pour fêter ces Gay Pride. À Genève, gays et lesbiennes se sont réunis sur la plaine de Plainpalais. Des fêtes plus modestes ont eu lieu à Bâle, Berne ou Lucerne. Le cortège de Zurich, qui a réuni, je vous dis, plus de 1500 personnes, où hommes et femmes étaient en proportion égale. Quant à New York, c'est des centaines de milliers d'homosexuels qui ont célébré cet anniversaire. Ils manifestaient contre les violations des droits des homosexuels dans le monde et plus de 6000 policiers ont été mobilisés pour l'événement. Et toujours à Genève, où l'association homosexuelle de l'université est désormais officiellement reconnue, le rectorat n'a fait aucune difficulté et l'association fait partie maintenant de la conférence universitaire des associations d'étudiants. Le but de UniGay est moins de militer contre les discriminations que d'apporter une aide morale et un appui psychologique à ses membres. Elle se réunit tous les 15 de chaque mois à la salle B103, Unibastion, à 18h15. En France, les membres d'un commando anti-avortement sont poursuivis pour avoir occupé l'accès d'un bloc opératoire. 7 membres du mouvement anti-avortement SOS Tout Petit, avec à leur tête le docteur Xavier Dor, ont comparu le 15 juin devant le tribunal de Nanterre pour entrave aux opérations d'interruption volontaire de grossesse le 11 décembre 1993 dans une clinique de Bourg-la-Reine. « Je ne regrette pas une seconde et je recommencerai », a dit le docteur Xavier Dor, 65 ans, maître de conférence, animateur de l'association anti-avortement SOS Tout Petit, qui s'est montré plus déterminé que jamais. Avec 6 de ses amis, 4 hommes et 2 femmes, le docteur Dor comparaissait pour avoir fait irruption dans la clinique Ambroise-Paré le 11 décembre. Ce matin-là, les 7 personnes s'étaient installées dans le sas menant au bloc opératoire où elles avaient prié et chanté des cantiques avant d'être interpellées par la police un quart d'heure plus tard. L'avocate de l'Union des femmes françaises, qui s'est portée partie civile dans cette affaire, s'élève contre ceux, je cite, « qui veulent la vie à tout prix avant de demander au tribunal de ne pas laisser ces gens-là nous donner des leçons de morale, eux qui plaident pour le retour à l'obscurantisme ». La clinique demande également un remboursement puisqu'elle n'a pas pu, elle a subi une perte ce matin-là, n'ayant pu procéder à aucune opération. L'avocat de l'établissement souhaite aussi que le tribunal mette fin, je cite, aux agissements de fanatiques dénonçant l'intégrisme religieux de ces terroristes intellectuels. Des propos contre lesquels s'élève le défenseur de Xavier Dor et des 4 autres prévenus, qui est maître Georges-Paul Wagner, qui par ailleurs est défenseur et candidat du Front National. On voit d'où viennent les anti-avortements. Xavier Dor a déjà été condamné à 1 mois de prison avec sursis et 5000 francs d'amende pour une opération anti-avortement du même genre à la clinique des Lilas, près de Paris. Au Portugal, les Sidéens font cimetière à part. Dans le village de Vilacha, au sud de Lisbonne, les victimes du sida sont enterrées à part dans des cercueils plombés. La fosse est plus profonde et on conseille aux fonctionnaires qui font les... aux fossoyeurs, excusez-moi, de mettre des gants et des masques. L'ouverture du cercueil est interdite et le prêtre vient célébrer son office à l'écart du cimetière. Les familles ne se plaignent pas, elles comprennent. Au fond, tout cela est d'un ridicule achevé, constate le journal. C'est aussi l'avis du fossoyeur, de l'ingénieur et du conseiller municipal. Mais en l'absence de directives claires, la discrimination post-mortem continue. En Suisse, enquête chez les fonctionnaires. Certains violent, d'autres détournent des fonds. 2 policiers arrêtés pour viol, un juge d'instruction suspendu pour avoir importuné une femme sexuellement, un caissier communal et un huissier accusés de détournement de fonds. Ça se passe en Tessin, Argovie, Turgovie et Berne. Des délits reprochés à des fonctionnaires qui ont été rendus publics. 2 policiers tessinois ont aussi été arrêtés pour avoir violé une danseuse de cabaret pendant leur service à Bellinzona. Quant au suppléant du préfet d'Arau, il a été suspendu avec effet immédiat. Il est soupçonné d'avoir importuné sexuellement une femme qu'il avait interrogée chez elle en qualité de juge d'instruction. « À Genève, 1100 fonctionnaires signent pour l'interdiction du harcèlement sexuel. Une pétition a été déposée au Grand Conseil pour soutenir le projet de loi. Le comité de soutien au projet de loi, déposé cet hiver, formé de différents mouvements de partis de gauche, entend obtenir son adoption intégrale. Ce projet a donc été contresigné par plus de 1000 fonctionnaires. Une pétition a été remise au Grand Conseil avec une petite manifestation. On le voyait entre autres des masques, les gens masqués avec les conseillers, les masques des conseillers d'État qui jouaient aux trois petits sages, vous savez, celui qui n'entend rien, qui ne voit rien et qui ne dit rien. Selon le projet de loi, le harcèlement doit être combattu par tous les moyens, car il a d'ailleurs un coût très élevé, comme dit l'explique Valérie Boux du syndicat Le Site. Principaux avantages de ce projet de loi, il propose une définition du harcèlement et le rend clairement illicite. Il définit le rôle du plus grand employeur du canton, il institue une procédure de médiation. Car le système actuel à l'État ne prévoit que le dépôt d'une plainte pénale, ce qui a pour l'effet de ne pas impliquer l'employeur. De plus, il n'est pas évident d'oser porter plainte contre son supérieur, raison pour laquelle une nouvelle voie est proposée. En cas de harcèlement, la victime contacte un médiateur ou une médiatrice qui tentera de régler le problème le plus vite possible. En cas d'échec, la victime peut alors demander l'ouverture d'une enquête administrative, celle-ci alors menée par une commission composée à 2/3 de femmes. À relever que tous les membres auront reçu une formation sur le problème du harcèlement sexuel. Enfin, les différentes parties peuvent recourir contre la décision de cette commission auprès du tribunal administratif. Le vote sur ce projet de loi n'interviendra pas avant cet automne, le temps que la commission adéquate examine ce projet.
Justement, concernant l'harcèlement sexuel, des serveuses accusent leur patron de harcèlement. Une quarantaine de personnes, donc ça se passe à Genève, se sont rassemblées rue de Lyon devant le Café du Jura, c'était hier, avec des calicots significatifs à l'attention du patron, bas les pattes. Le patron m'interdisait de ranger la cave avant que tous les clients soient partis. À 2h du matin, sans témoin, il m'accostait dans le sous-sol. Si j'ai toujours réussi à échapper à ses assauts, c'est probablement parce qu'il était souvent ivre, témoigne leur ex-employée au Café du Jura, rue de Lyon 19. Mais Laurence est successe. D'après José Maria Hans, du syndicat interprofessionnel des travailleurs, le propriétaire du Café du Jura faisait aussi chanter des serveuses étrangères. Il leur disait « Si tu couches, je te donne les papiers, sinon rien ». Le récit d'Anna Maria laisse supposer le tourment que pouvaient connaître des femmes en situation précaire. « Je suis portugaise, je travaillais sans autorisation. Mon service commençait à 6h et se terminait à 3h. Pour 3h de sommeil, le patron me prêtait une chambre au premier étage dont il avait la clé. Parfois, lorsque j'étais au lit, déshabillée, il entrait avec les intentions qu'on imagine. Je lui ai résisté pendant 3 mois et demi, puis j'ai démissionné. Tout cela est foncièrement faux, déclare le propriétaire du bistrot. Je le jure sur la tête de ma mère et celle de mes 4 enfants. Une femme a néanmoins déposé une plainte pénale avant-hier contre le cafetier. 3 demandes en indemnité pour tort moral ont aussi été présentées au prud'homme. Ce tribunal a déjà répondu favorablement à l'une d'entre elles. L'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail vient pour sa part d'ouvrir une enquête. Avec 40 personnes, les syndicats CIT, FCTA et Union Helvetia ont manifesté devant le Café du Jura hier à midi. Par solidarité, nous demandons aux clients de réfléchir à 2 fois avant d'entrer dans cet établissement. Je vous rappelle l'adresse, donc n'allez pas à ce Café du Jura qui se trouve à la rue de Lyon 19.
Toujours en Suisse, une étude essaye de montrer si les conseillers fédéraux sont conséquents avec leur idée qu'il faut féminiser un peu le monde politique. Est-ce qu'ils engagent plus de femmes ? Le mensuel bilan a donc fait une enquête et il a fait le tour des départements fédéraux pour constater que si le nombre des cadres féminins qui entourent Ruth Dreyfus est très élevé, les 6 autres conseillers fédéraux, eux, n'ont pas beaucoup ou pas très peu engagé de femmes. Donc on a en tête Ruth Dreyfus avec 10% de femmes parmi les cadres supérieurs, 9% parmi les cadres moyens, Colère avec 8% de supérieurs, 13% de cadres moyens, Autostich 4 et 4%, Flavio Cotti 3,8%, 4 supérieurs, 10, 1% de cadres inférieurs. Caspar, donc les secrétaires, Caspar Villiger, 2 fois 0,7. Bon, l'armée, vous me direz. Mais de la Murat, lui, il n'a pas de femme du tout dans les cases supérieures. Et 6% parmi les cadres moyens. Et 0% pour Adolphe Ogui, mais encore moins de femmes cadres moyens. 2,3% des chiffres qui confirment que ces messieurs de Berne ne sont pas pressés de passer des paroles aux actes. Munie de 125 000 signatures authentifiées, l'initiative populaire pour la procréation et la reproduction respectant la dignité humaine a été déposée au Palais fédéral à Berne. Elle demande que la fécondation en dehors du corps de la femme ainsi que l'utilisation de sperme ou d'ovules de tiers soient interdites pour la fécondation artificielle, ce qui viserait à compléter l'article 24 de la Constitution.